pour reconnecter Martine.
Hey, comment ça va?
À Karim.
Super, pour vrai, ça fait longtemps.
Et Karim, à la bibliothèque.
Oups, excusez.
Il y a la STM, la meilleure façon de se reconnecter.
Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Merci de prendre le temps d'être avec nous sur Canal M pour l'émission Vivement les femmes. Ben, aujourd'hui, nous allons parler de désencombrement. Nous sommes au printemps, ben, d'ailleurs on espère que le printemps va arriver assez rapidement, mais c'est un moment propice à cela. Pourquoi c'est nécessaire de désencombrer? Ben, nous allons avoir le témoignage dans un premier temps de l'autrice Isabelle Laflèche qui s'est délestée d'une bonne partie de ses biens. Et puis nous allons poursuivre avec Caroline Rochon, organisatrice professionnelle. Bonjour Isabelle Laflèche.
Bonjour Marjorie.
Ben, bienvenue à Vivement les femmes.
Merci de votre accueil.
Oui. Alors, en studio, j'ai avec moi Caroline Rochon, l'organisatrice professionnelle avec qui nous allons poursuivre. Et donc, alors, je voulais vous dire qu'on était toutes les deux pour vous écouter. Alors, premièrement, Isabelle, vous êtes avocate. Hein, vous avez travaillé à Toronto, à New York. Vous avez mené une vie de jet-set. Puis tout d'un coup, on avait circulé votre vidéo dans laquelle vous vous êtes départie quand même de 75 % de vos biens. Pourquoi vous avez éprouvé ce besoin?
Parce que j'étais rendue ailleurs dans ma vie. Premièrement, je considère que on va commencer avec le début, j'ai fait une grande transformation dans ma vie. En fait, j'en ai fait deux. J'ai quitté le droit en 2005 parce que j'avais le goût de poursuivre ma créativité. J'avais ce besoin-là d'être plus créative. Ensuite, j'ai suivi des cours, des formations aussi sur le développement personnel, quelque chose qui était très important pour moi et pour mon évolution. Et dans ces formations-là, j'ai appris des choses sur l'énergie, hein, parce que nous, les humains, on est constitués d'énergie, mais les objets aussi. Et donc, si on conserve des biens qui nous rappellent une période de notre vie qui est terminée, par exemple, ça peut être un décès, un divorce, un changement de carrière, ça peut, au niveau purement énergétique, ça peut nous garder coincés dans le passé. Donc, pour moi, à chaque fois que je fais une nouvelle transition dans ma vie, je me départis de beaucoup, beaucoup de choses. Et l'autre chose, c'est que je me suis rendu compte que j'étais extrêmement, extrêmement attachée à certains objets. J'avais mis des meubles que j'avais conservés dans un storage. Et ces meubles-là, c'était des antiquités, des choses que j'avais achetées quand j'habitais à New York et que j'utilisais pas du tout. Et j'avais un attachement vraiment exagéré à ces objets-là. Ça faisait quelques années que je les utilisais pas. C'était un petit peu ridicule même. Mm-hmm. C'est difficile à expliquer des fois notre attachement à des choses. Et à un moment donné, j'ai senti le besoin de couper la corde. Donc, j'ai tout vendu. Et j'ai senti une énorme libération. J'ai senti un bien-être avec ça. Et je me suis rendu compte que j'étais une personne qui s'attachait beaucoup au matériel. Et finalement, ça laisse la place. Moi, j'ai suivi les enseignements d'une dame qui s'appelle Florence Scovel Shinn. C'est une dame qui a écrit des livres dont Le jeu de la vie et comment le gagner. Et elle explique dans son livre que les objets, si on ne les utilise pas, ça crée une stagnation et ça crée des blocages. Donc, si on veut, par exemple, attirer plus d'abondance dans notre vie, si on veut attirer un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, on veut attirer des nouveaux contrats, des nouveaux objets, si on reste attaché aux vieilles affaires, ça bloque tout ça. Il y a une loi spirituelle qu'on appelle la loi de la circulation. Donc, c'est très, très important de faire circuler les choses, que ce soit les vêtements que l'on porte plus, on va porter ça à des friperies, des organismes de bienfaisance. On fait circuler les choses parce que si on a des objets qu'on n'utilise pas, on prive quelqu'un d'autre d'en profiter. Alors, pour toutes ces raisons-là, je me suis départie de... Et bien évidemment, c'est suite à quelques déménagements. Et à chaque fois que je déménageais, je me rendais compte que j'avais envie de m'alléger encore plus. Et ça crée vraiment un sentiment de bien-être.
Donc, ce que je comprends, c'est par étapes que vous avez, parce que vous êtes départi de 75%, là, je l'ai dit au début, de vos biens, vous l'avez fait par étapes?
Oui, oui. J'ai déménagé plusieurs fois dans les dernières années et à chaque fois, je laissais aller un gros morceau. Donc, par exemple, je suis passée d'une résidence à une autre, j'ai donné tous les livres que j'avais mis ça dans un garage. J'avais énormément de livres. Je suis écrivaine, donc j'adore la lecture. J'en avais beaucoup, beaucoup. Et je les utilisais pas. Ils étaient dans un garage. Ils commençaient à prendre l'humidité. Donc, dans la nouvelle ville où je suis déménagée, je suis allée porter ça à la bibliothèque locale. À leur grand bonheur, ils étaient super contents. Ils en ont vendu une partie lors de leur vente annuelle de livres seconde main. Ils en ont utilisé pour la bibliothèque du village. Donc, pour moi, c'était « OK, wow, je fais du bien à la communauté, je m'en servais plus, ils étaient dans un garage, ils commençaient à prendre l'humidité. » Et en ce faisant, je me suis libérée. Après ça, je suis redéménagée encore une autre fois. Et cette fois-là, c'était des meubles, des vêtements, j'ai tout laissé aller, des choses que je portais même plus parce que c'était plus de... J'étais plus là, une avocate, je travaillais à de la maison, j'avais plus besoin de tout ça. Donc, c'est ça, c'est par étapes et je vous dirais que ça aurait été encore préférable si j'avais tout fait d'un coup, mais des fois, c'est pas toujours facile.
Oui. Et est-ce qu'il y a des objets qui vous manquent comme 2-3 ans après, vous dites, oh, j'aurais dû garder cet objet-là, est-ce que ça vous est arrivé?
Jamais.
Ah oui?
Jamais. Jamais, jamais, jamais. Non, jamais. Je pense qu'une fois, j'avais regretté j'ai vendu sur eBay une veste, puis je m'étais dit, oh, j'aurais pu la garder, mais ça fait très, très, très longtemps de ça. Et non, jamais, jamais. C'est pour vous dire à quel point on a tendance à se créer des faux attachements à des objets. Mm-hmm. En tout cas, dans mon cas, moi, j'étais attachée à des choses juste parce que c'était beau. J'avais trouvé ça à New York chez un antiquaire ou j'avais acheté ça parce que ce jour-là, j'avais eu une promotion professionnelle. J'avais envie de me gâter, donc j'avais acheté tel objet. Mm-hmm. Et finalement, ça restait dans les tiroirs et ça me servait plus. Alors, j'ai jamais, jamais, jamais regretté.
OK. Vous avez parlé du processus de détachement avec l'objet. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça se fait?
Je pense qu'il faut... vous connaissez Marie Kondo, sans doute, dans ses livres. Elle parle beaucoup de les objets qui nous apportent du bonheur. Et dans sa méthode, Marie, elle dit tout le temps, il faut remercier l'objet et lui dire merci beaucoup d'avoir servi dans ma vie, je te laisse aller. Alors, c'est un peu ce que je fais moi, mentalement, si on veut, je remercie l'objet, j'ai beaucoup de gratitude que cet objet a apporté de la beauté dans ma vie. Moi, je suis une personne qui est très attirée par les belles choses, la beauté, les couleurs, j'adore les meubles colorés, les vêtements colorés. Donc, j'ai tendance, des fois, à vouloir trop en acheter, à tout vouloir conserver. Donc, je prends l'objet, j'ai dit merci beaucoup d'avoir servi dans ma vie, merci d'avoir apporté de la couleur dans ma vie, et je te laisse aller. Et souvent, les gens qui achètent mes choses, je le reconnais, ce sont des gens qui apprécient ce que j'avais acheté, ils me remercient, ils démontrent de la gratitude, et c'est comme si je laissais partir un enfant chéri avec des parents dont je sais qu'ils vont bien s'en occuper. Alors, c'est toujours comme ça pour moi. Et à chaque fois, c'est comme un sentiment de libération, de purification. Et je passe un autre appel. Je tourne la page assez rapidement.
OK. Puis, est-ce que le désencombrement, c'est un éternel recommencement?
Oui et non. Je pense que dans mon cas, moi, personnellement, au fil des années, et c'est en fait le sujet de mon blog, et j'ai un podcast à ce sujet-là, un balado, j'étais une consommatrice compulsive et excessive. C'était pour, en fait, remplir un vide intérieur parce que je faisais pas ce que j'aimais dans la vie. Donc, j'avais tendance à aller magasiner pour me changer les idées, pour me changer les idées, pour remplir ce vide-là. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime. Je suis très, très passionnée par mes livres, mes conférences, mon balado, mon blog. Donc, je ressens moins le besoin d'aller dans les centres d'achat, les centres commerciaux, peu importe, pour remplir un vide. Cela dit, je suis passionnée de mode éco-responsable. Je fais des vidéos sur mon TikTok et j'adore montrer qu'on peut trouver des belles choses dans les friperies, les magasins vintage, les centres de récupération. Donc, je me retrouve souvent dans des friperies et je trouve des merveilles. Mais ce que je fais, c'est que je peux les porter quelques temps et ensuite, je les laisse aller, soit que je les remets à la friperie ou je les vends sur Marketplace, sur Kijiji. Ça circule beaucoup, beaucoup chez moi. Alors, c'est pas comme avant. C'est pas comme avant. Les choses ont changé et c'est pas pour les mêmes raisons.
OK. Dans votre livre « Naviguer à travers le changement et la transformation », là, paru aux éditions de l'Homme en 2020, à la page 70, dans un paragraphe, on dit « Il encrasse et empoisonne notre environnement et notre énergie vitale ». Il nous reste à peine 2 minutes. Pouvez-vous nous dire cet encrassement puis l'empoisonnement et comment est-ce que c'est?
Parce que quand on a trop de choses, il y a des gens, vous savez l'expression en anglais, le hoarding.
Oui.
Quand on a trop de choses, quand on conserve trop d'affaires, c'est pas bon pour les yeux parce qu'on est toujours, les yeux vont toujours où il y a un encombrement. Donc, mm-hmm. C'est super important de désencombrer pour sa santé mentale, pour sa paix d'esprit. Le fait de désencombrer, c'est excellent pour sa santé mentale, pour notre âme, l'aspect spirituel. Et quand je libère ma chambre, par exemple, je nettoie mes placards, je ressens un bien-être profond et c'est pas pour rien parce que nos yeux sont attirés tout de suite vers les tas, hein, les tas de vêtements, les tas de ci, les papiers qui traînent. Donc, le fait de faire son ménage, de nettoyer, le fait de nettoyer notre mess, si je peux exprimer cette expression-là en anglais, ça crée un espace à l'intérieur de nous, une grande, grande paix d'esprit. Donc, c'est pour ça que faire son ménage, c'est pas juste physique, c'est émotionnel et spirituel aussi.
Alors, c'est tout un processus. Alors, nous arrêtons là, Isabelle Laflèche. Merci vraiment de nous avoir partagé votre expérience. Alors, merci à vous. Restez des nôtres, chers auditeurs et auditrices. Nous allons poursuivre avec Caroline Rochon, organisatrice professionnelle.
Dans ma tête. Vous écoutez Vivement les femmes.
Nous venons d'écouter la chanson « Ménage du printemps » de Bon Enfant. Alors, nous poursuivons avec le sujet du jour, le désencombrement. Et cette fois-ci avec Caroline Rochon, coach et organisatrice professionnelle, membre des organisateurs professionnels du Canada et qui a écrit un livre « Moi et mon désordre » paru aux éditions Béliveau. Alors, bonjour Caroline Rochon.
Bonjour Marjorie, merci de me recevoir en studio.
Ah oui! Ah non, très contente aussi. Et puis, depuis la pandémie, on reçoit beaucoup au téléphone.
Oui.
Donc, d'avoir les gens au studio, nos invités, ça nous fait toujours chaud au cœur.
Moi aussi, j'ai pas manqué l'opportunité.
Ah ben, plaisir, parce qu'en plus, vous venez
De Gatineau,
oui. Hein, donc alors il faut vraiment apprécier. Alors, Caroline, vous avez entendu le témoignage d'Isabelle Laflèche, qui
oui.
était en début d'émission avec nous, qui, elle s'est délestée de quand même 75%
oui.
De ses biens. Qu'est-ce que ça a fait ressortir d'essentiel, ce que vous avez
Bien,
entendu?
Bien, je pense qu'elle a une grande sagesse et sa philosophie rejoint beaucoup des principes dont moi j'aborde aussi avec mes clients.
Mm-hmm.
Donc, elle est sur une très bonne voie et je pense que c'est un autre exemple de gens, parce que moi, j'ai fait un peu le même processus.
Oui.
Tu arrives dans un moment dans ta vie où ton bonheur n'est pas très élevé. Et une des façons, pour moi, ça a été de désencombrer vraiment mon environnement.
Mm-hmm.
Et puis, je pense que les gens qui vont vraiment à fond de ce processus-là, et non seulement de désencombrer et organiser ses tiroirs de cuisine ou ses placards et son garde-robe, vit une transformation profonde. Donc, je pense que Isabelle a vraiment...
Oui.
On pouvait l'entendre dans sa voix de son cheminement, son bonheur, où elle en est. Et puis, c'est un peu ce que je souhaite aux gens,
mm-hmm.
de s'investir pleinement dans ce processus-là pour en découvrir tous les trésors cachés
oui.
sous notre désordre. Moi, j'ai déjà donné une conférence qui disait « J'ai trouvé ma passion sous mon désordre ».
Ah oui?
Alors, puis je pense que Isabelle, c'est la même chose.
OK. Bien, c'est intéressant. Racontez-nous un peu votre histoire. Comment ça a débuté, votre...
Bien, moi, j'étais quelqu'un qui a fait beaucoup de travail. Je me cherchais un peu dans la vie. J'ai trouvé un emploi au gouvernement. Je pensais avoir frappé la loterie avec tous les avantages sociaux, la bonne paye et tout. Et puis, à l'époque, moi et mon mari, on essayait d'avoir des enfants. J'étais 10 ans à faire des fausses couches,
mm-hmm.
dont la dépression a commencé suite à ça. Et les journées où je n'étais pas capable de travailler, je restais à la maison.
Oui.
Et à l'époque, c'était que des émissions sur le désencombrement et de l'organisation.
Mm-hmm.
Donc, à un moment donné, ça a fait « je pense que ça me parle ». Et tranquillement, pas vite, je me suis mis à aller boîte par boîte et tablette par tablette pour désencombrer tout ce qui me collait plus à la peau, tout ce qui vibrait plus avec moi, ce que je n'aimais plus. Et c'est comme si, en faisant ce processus-là, le brouillard qui s'était installé dans ma tête avec la dépression s'est dissipé. Et je me suis dit, waouh, si moi j'ai réussi à le faire, ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour les autres.
Oui.
Et ce que j'ai su, c'est qu'il y avait une organisation au Canada. Je me suis inscrite comme membre, je suis allée à des rencontres, j'ai pris des cours et tout ça. Et puis 2005, j'ai commencé mon entreprise. Et donc 2022, je suis encore là.
Ah ouais. Puis moi, ce qui me frappe aussi dans tout ça, est-ce que l'encombrement a une classe sociale? Ce que je veux dire, est-ce que ça a un genre, ça a des frontières géographiques? Parce que pour moi, j'aurais tout de suite pensé que c'est dans les pays industrialisés, etc. Donc, ce phénomène-là.
Bien, c'est certain que dans la société où on vit, dans les Amériques surtout, dans les pays industrialisés, comme vous dites,
mm-hmm.
on a accès à beaucoup plus d'objets, à des prix moindres. Donc, il y a une facilité d'encombrer un peu plus. Est-ce qu'il y a des barrières culturelles, frontières? Peut-être, mais en gros, c'est un problème qui est généralisé autant pour les personnes qui ont moins de moyens à des personnes qui ont plus d'argent. Alors, les personnes qui vont avoir plus d'argent, bien souvent, vont avoir tendance à accumuler
oui.
des objets de plus grosse valeur, des souliers à plusieurs centaines de dollars.
Mm-hmm.
Puis des personnes qui ont peut-être moins d'argent, si ça devient un réel problématique, vont commencer à emmagasiner des canages. des sacs de poubelle. Il n'y a pas de classe, vraiment. Là. C'est juste que parfois, les personnes qui ont beaucoup d'argent ont plus grosse maison. Donc, le désordre va être caché. Ils vont laisser les pièces où il va y avoir la visite, des invités. Mm-hmm. Ça va être désencombré, mais il va y avoir des pièces où la porte va être fermée et le désordre va s'y retrouver.
Ah, ça, je comprends parce que ça me ressemble.
Ah oui!
Je viens de voir qu'il y a quand même de l'encombrement parce que c'est sûr qu'on aime des fois des espaces épurés,
oui.
Mais il y a des zones d'encombrement, c'est ce que j'entends.
Absolument. Bien, pour certains, il y en a que c'est bordélique partout.
Oui.
Mais ce qui me fait peut-être ressortir avec le témoignage d'Isabelle, puis peut-être avec vous,
mm-hmm.
et c'est quelque chose que j'aborde beaucoup dans mon entreprise et avec mon client, c'est qu'on a un style organisationnel.
Oui.
Et ce que les gens ne comprennent pas souvent, c'est que tout ce qu'on fait dans la vie, que ce soit écrire, calculer, où on a dans notre cerveau cette partie pour faire cette tâche-là, se retrouve soit sur le côté droit ou gauche du cerveau. Mm-hmm. Alors, on a ce qu'on appelle la dominance d'hémisphère de cerveau. La faculté de l'organisation se retrouve sur le côté gauche. Mm-hmm. Donc, les gens qui ont une tendance à être beaucoup plus créatifs,
oui.
C'est des gens qui vont utiliser plus les facultés qui se retrouvent sur le côté droit du cerveau. Donc, ils ont moins accès à cette facilité-là de comment s'organiser parce que ce n'est pas une partie du cerveau qu'ils vont visiter souvent.
Okay.
Donc, souvent, c'est pour ça qu'on dit les artistes, c'est bordélique,
mm-hmm.
Des gens qui sont artistiques, qui vont faire des écritures, des choses comme ça. On a tendance à plus ramasser, un, parce qu'on a des plus grands attachements émotionnels que les autres.
Okay.
Donc, c'est souvent un phénomène qui est plus fréquent chez les personnes qui ont une dominance droite de cerveau.
Et en parlant de la dominance, j'ai vu que quand même c'est 80 % des femmes qui sont touchées par le problème. Ou vous direz non?
Je ne connais pas la statistique par rapport à ça.
Okay.
Je dirais que il y a autant les femmes que les hommes qui ont un problème d'encombrement.
Mm-hmm.
Je pense que ceux qui s'en font le plus, c'est les femmes.
Ah oui, okay.
Souvent parce que... Ils ont plus le côté germaine, le côté de vouloir contrôler. Donc, pour eux, s'ils voient le désordre, ça commence à les impatienter et les aggraver dans leur état d'être.
Ouais.
Donc, c'est souvent eux qui disent que c'est un problème, mais il y a autant d'hommes que de femmes qui ont ce problème d'encombrement dans notre clientèle de toute façon. Oui.
Ah, OK. Puis les femmes aussi, c'est que ce sont souvent des chefs de famille.
Oui.
Ils vont aussi commencer à désencombrer les autres pièces,
oui.
des chambres et tout ça.
Oui, bien souvent, ça découle un peu de notre culture d'où il y avait les femmes étaient à la maison.
Oui.
Donc, ça devenait leur responsabilité de s'occuper de la maisonnée.
Mm-hmm.
Et là, maintenant que les femmes sont sur le marché du travail, sont moins souvent à la maison, donc ils ont moins de temps pour s'occuper... À part qu'ils ont fait le lavage, la cuisine et tout ça, bien, tout le temps et l'énergie que ça prend pour organiser la maisonnée, les enfants, le conjoint, tout ça, souvent, c'est laissé de côté. Et c'est là qu'à un moment donné, l'encombrement fait place et puis là, ça devient un problème.
OK. Je reviens à ce que vous avez dit au début, Caroline, que la sensation que vous aviez lorsque vous avez décidé de désencombrer,
oui.
D'aller dans ce domaine-là.
Oui.
Est-ce que c'est physiologique aussi, ce que vous ressentez?
Écoutez, le désordre affecte toutes les sphères de notre vie, autant le côté mental, parce que là, à un moment donné, mentalement, on ne sait plus qu'est-ce qu'on a à faire parce qu'on est un peu désordonné. Ça l'affecte notre côté physique parce que ça draine notre énergie. C'est comme si notre âme aussi avait perdu sa raison d'être. Ça nous affecte financièrement aussi parce que si on n'est pas capable de trouver un objet, on va aller en racheter un autre. Si on n'est pas organisé dans ses papiers, bien souvent, on va payer des factures en retard, ça nous coûte des intérêts.
Ah, oui.
Alors, vraiment, ça touche toutes les facettes de notre être humain. Donc, c'est pour ça qu'une fois qu'on commence à vraiment passer à travers le processus de désencombrer son environnement, ça vient transformer notre vie complètement.
Mm-hmm. Vous êtes généreuse, vous nous faites... la proposition de mettre votre livre en concours. Donc, le livre « Moi et mon désordre » de Caroline Rochon, qui est paru aux éditions Béliveau. Donc, alors, on va le faire sur la page Facebook de Canal M pour que une auditrice ou un auditeur gagne ce livre-là. Pourquoi vous avez voulu écrire le livre?
Ça a commencé par le désir d'écrire sur les techniques. Alors, je pensais comment organiser. Et durant mes conférences, je parlais de mon témoignage et souvent les gens me disaient, une fille m'a dit, Caroline, parle de ta vie à toi. Et ça va beaucoup plus inspirer. D'où vient le titre qui est Moi et mon désordre, mais il y a un sous-titre qui est Les confessions et les secrets d'une organisatrice. Alors, oui. Je parle de ma vie privée. Alors, souvent, les gens, quand ils ont lu le livre, ils me disent, Caroline, c'est comme si tu étais mon moi identique. Et ils se reconnaissent à travers l'histoire et je donne des trucs pour les aider à désencombrer. Alors, c'est un petit bijou intemporel.
Donc, alors, un guide pour procéder au désencombrement.
Oui, et puis je parle de la dominance d'hémisphères de cerveau aussi. Alors, les gens vont pouvoir se reconnaître c'est quoi ton style organisationnel pour pouvoir mettre après ça en pratique des trucs qui vont être propices à toi et non à ce que quelqu'un d'autre veut t'imposer comme façon de t'organiser.
OK.
Alors, il y a différentes façons de s'organiser.
Ah! Donc, nous allons aller à une petite pause et ensuite, on va poursuivre sur ce sujet.
Reconnecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey! Allô le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Je poursuis avec Caroline Rochon, donc coach et organisatrice professionnelle. Caroline, dites-nous comment se passe un coaching en désencombrement.
Bien, je pense que chaque organisatrice professionnelle a sa propre façon de faire. Je vais expliquer la mienne. Vraiment, à chaque client, je propose une auto-évaluation pour déterminer s'ils sont plus de dominance droite ou gauche. S'ils sont plusieurs dans la famille, tous les membres vont passer l'auto-évaluation aussi. Parce que si c'est des personnes qui ont plus une dominance droite, cette personne-là va préférer voir les choses à la vue versus une personne qui est plus dominance gauche préfère que les choses soient serrées parce que pour eux autres, serrées, s'ils le voient, c'est à l'équivalent du désordre, mais pour une personne droite, s'ils ne le voient pas, ils vont oublier qu'ils ont quelque chose à faire. Donc, ce que je vais apporter, une fois que je connais le style de chacun de mes clients, je vais pouvoir proposer des solutions adaptées à chacun de ceux-ci. Alors, une fois qu'on commence à comprendre c'est quoi les endroits, les enjeux, pourquoi ils ont fait appel à moi, je fais un tour brièvement de leur endroit et ensuite je propose un plan d'action et je propose soit de leur donner juste des trucs comme ça verbalement ou je peux avec eux, faire le travail. Les personnes qui ont une grande difficulté de laisser aller avec l'attachement émotionnel, ils ont besoin de quelqu'un qui les accompagne dans leur processus de décision. Donc, souvent, on n'a pas été appris Tu sais, moi, je commence mon livre avec « fais ta chambre », mais pour mon cerveau, à moi, là, c'était pas clair « faire ta chambre oui. ». Moi, c'était « on glisse tout en dessous du lit ou dans le placard mm-hmm. ». Puis là, il y avait les sandwichs qui commençaient à moisir.
Oui, oui.
Mais dans ma tête, il n'y avait aucune logique comment on le faisait. Mm-hmm. Donc, pour moi, le processus d'accompagner un client dans ça, c'est de leur trouver une façon de, quand il arrive face à telle et telle situation, c'est quoi les questions clés à se poser oui. pour pouvoir faire les meilleures décisions possibles pour désencombrer, mais aussi ensuite pour comment on va organiser l'espace.
OK. Très intéressant. Je vous écoutais, Caroline, puis là, j'étais en train de voir, je dis, je pense que moi, je suis du gauche. Parce que le gauche, on classe à l'intérieur. Hein?
Bien, c'est que ce qui arrive, c'est qu'on a, on s'est fait inculquer
okay.
que c'est comme ça. Si ça fonctionne, c'est des bonnes chances que vous soyez de dominance gauche. Par contre, si vous avez de la difficulté à vous rentrer dans le moule ou que vous décidez de vous organiser, mm-hmm. vous classez tous vos documents et tout ça, mais que ça finit toujours par être en pile, il y a des chances que ce n'est pas votre style naturel et c'est votre style qui a peut-être été inculqué par soit vos parents, l'école. Parce qu'on vit dans une société qui oui. impose la façon plus gauche de faire les choses. Donc, moi, c'est pour ça que quand je rentre chez mes clients, je dis « touchez rien, laissez-moi, j'ai plein d'indices quand j'arrive
». Ah, OK. Donc, alors, je vois que c'est vraiment important le coaching parce que
oui.
justement, il y a ça aussi, l'habitude qu'on
oui.
a
absolument.
Et ce qui devrait être selon notre vraie personnalité, notre oui. vraie façon de faire. Puis, Caroline, si il y a des gens qui ne peuvent pas être coachés, parce qu'on parle aussi d'une pathologie qui peut être présente.
Bien, moi, j'ai des clients également dans ce que Isabelle a mentionné, le oui. hoarding, l'accumulation compulsive.
Mm-hmm.
C'est certain que pour certaines personnes, ils ont des maladies mentales et tout ça.
Mm-hmm.
Alors qu'il faut une façon et des techniques très spécifiques pour travailler avec eux. Mm-hmm. Mais il y a de l'espoir. C'est juste que le travail se fait de longue haleine.
Oui.
Et c'est vraiment pour n'importe qui. C'est que ce processus-là ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Le désordre, ce n'est pas accumulé en deux jours. Mm-hmm. Alors, on ne peut pas s'attendre qu'en deux jours, tout soit parti. Mais quand on y va petit à petit, en pleure d'oignon, vous en avez parlé avec Isabelle, ça s'est fait avec le temps.
Oui.
C'est que si c'est trop drastique, puis on essaie de tout désencombrer son environnement, tout se départir, c'est que là, ça fait un peu un traumatisme puis un choc
oui.
à la personne. Mm-hmm. Donc, en le faisant graduellement, c'est que on laisse aller les choses qui font moins mal émotionnellement, si vous voulez. Et tranquillement, pas vite, à un moment donné, on s'habitue avec ce petit moins de là dans notre espace. Puis là, à un moment donné, on se sent prêt ou prête à refaire une autre couche. Puis là, moi, excusez-moi aussi, ça a été très graduel. Et maintenant, je vis dans un environnement hyper épuré. Pour moi, je dis, plus on a de choses, plus on a de choses à gérer.
Mm-hmm. Puis ce serait difficile pour vous de revenir dans un encombrement.
Absolument.
Okay.
On ne fait plus marche arrière. Une fois qu'on a goûté à ce sentiment de liberté et de légèreté qui nous entoure, mais je dirais, moi, je suis une traîneuse professionnelle, mais hyper organisée.
Ah oui!
Parce que je suis une fille créative, oui. je voyage énormément dans ma vie. Bon, mm-hmm. maintenant que la pandémie est passée, je recommence.
Mm-hmm.
Je voyage, je donne des formations, je travaille avec des clients. Alors, ma vie est toujours en mouvement.
Mm-hmm.
Alors, parfois, tu pourrais rentrer dans mon appartement et puis dire « Oh boy, cordonnier mal chaussé ». Par contre, ça ne me décourage pas
ouais.
parce que quand je vais avoir un petit moment de répit dans quelques jours, je le sais que cet objet-là, il s'en va là, cet objet-là s'en va là. Alors, mm-hmm. je suis entièrement organisée à la base,
mm-hmm.
mais je suis encore traîneuse. Alors, mais avant, c'est que quand les gens, on se traînait, ça nous décourageait.
Oui.
Et là, on faisait juste repousser mm-hmm. de se ramasser.
Mm-hmm.
Bien, maintenant que tu es organisée à la base, c'est 5 minutes, tout est fait.
C'est ça. Puis, est-ce qu'il y a des modes aussi, hein, parce que parfois, je tombe sur des émissions, là, télé-réalité,
oui.
Beaucoup américaines,
oui.
où les gens rentrent, là, c'est le bordel, les gens oui. rentrent, puis ils font de l'organisation. Est-ce qu'il y a une certaine mode au désencombrement, ou bien c'est un mode de vie à adopter?
Je pense que c'est une période de vie.
OK.
Je pense qu'à un moment, souvent, les gens vont me faire appel à moi. Ils ont 20 ans,
mm-hmm.
ils ont 15 ans.
Oui.
Des fois, c'est les parents qui m'appellent. Des fois, ils ont 70 ans. Puis, je pense que, sais, vous avez posé la question, est-ce que c'est à refaire?
Oui.
Une personne qui, naturellement, désencombre régulièrement,
ouais,
ils n'ont pas vraiment à refaire grand-chose. Des personnes comme qui ont tendance à plus accumuler, je leur dis toujours de faire un rendez-vous avec soi-même, comme on fait pour notre voiture au garage, pour faire le changement d'huile et tout.
Mm-hmm.
C'est de prendre au moins une fois, aux 3 mois, aux 6 mois, aux saisons, pour enlever le plus souvent possible, parce qu'on a tendance à accumuler. Alors, il faut connaître c'est quoi nos habitudes. Mais il y a aussi qu'on vit des périodes de vie, des saisons.
Oui.
Alors, si vous êtes une jeune famille et vous avez des bébés, bon, il nous faut tout plein d'objets pour subvenir aux besoins de notre petit bébé puis aimer ça. Là, à un moment donné, les enfants vieillissent. Si on n'a pas fait de désencombrement ou d'épuration, à un moment donné, les enfants sont rendus ados, sont rendus plus vieux au collège, à l'université. Alors, souvent, si on ne l'a pas fait aux différents stages de notre vie, c'est que là, à un moment donné, on se retrouve vraiment avec un gros problème. Mais souvent, les gens vont être appelés à faire ce désencombrement-là au changement de vie. Isabelle en a parlé. Mm-hmm. Changement de travail, changement de carrière. Il y en a, ça va être des divorces. Il y en a que ça va être suite à la perte d'un être cher. Les enfants partent de la maison ou les enfants changent d'âge, de groupe d'âge. Mm-hmm. Donc, ce changement-là va venir soit avec les saisons de notre vie.
OK. Puis, quand on fait le désencombrement, bon, il faut faire des tris. C'est comment on peut le faire efficacement? Puis c'est où qu'on donne, les endroits où on donne nos objets?
Souvent, le premier problème que les gens vont faire, c'est qu'ils vont dire, OK, ce week-end, on s'organise, on désencombre. Alors souvent, ils vont aller au magasin Grande Surface puis ils vont aller chercher des bacs.
Oui.
Et je dis, ça, c'est pas tout de suite, c'est la troisième ou quatrième étape.
Oh.
Okay. Moi, je vous suggère, mm-hmm, prenez un papier puis un crayon.
Mm-hmm.
Allez prendre un café ou un thé à l'extérieur de la maison.
OK.
Prenez un recul et décrire, j'ai le goût de vivre comment? Qu'est-ce qui est important pour moi maintenant dans ma vie? Où j'en suis rendue? Est-ce que les enfants ont vieilli? Est-ce que je suis tannée? Est-ce que j'ai perdu du poids ou j'en ai pris? Alors, c'est vraiment faire un portrait d'intention de où je veux, comment je veux que mon espace, comment je veux me sentir dans cet espace-là et qu'est-ce qui est nécessaire. Parce que, tu sais, à un moment donné, il y a des modes. On fait du jus, là. On a toutes les différentes bébelles pour ça. Mais si ça ne fait plus partie de ta vie,
mm-hmm,
savoir que c'est clair pour toi où tu t'en vas, dans quelle direction, c'est que quand va venir le temps d'épurer la pièce, plus facile de prendre une décision. Est-ce que ça, c'est en lien avec ma vision de cet espace-là ou non?
Mm-hmm.
Donc, la première étape, c'est vraiment faire une vision de ce qu'on veut. Une fois qu'on a commencé le processus, c'est vraiment de faire les catégories, le tri. Qu'est-ce qui est à donner? Qu'est-ce qui est à jeter? Qu'est-ce qui est à recycler? Qu'est-ce qui est à déchiqueter? C'est beaucoup de catégories, mais prendre le temps de s'organiser avant,
oui,
d'avoir des bacs, d'avoir des boîtes, c'est là où c'est plus facile et moins décourageant.
Mm-hmm.
Et puis ensuite de ça, bon, bien, c'est de savoir est-ce qu'on va les choses à donner qui sont encore bonnes, on peut les amener à une œuvre de bienséance qui récolte les articles de maison, les vêtements et tout. Et ensuite, c'est de voir avec sa municipalité, les éco-centres où on peut rapporter des objets comme des vieux ordinateurs, des peintures. Il y a plein de façons, puis souvent les municipalités vont l'avoir sur leur site Internet de où exactement on peut se départir de tous ces objets-là pour avoir le moins possible dans l'enfouissement.
OK. Bien, on se rend compte, hein, plus on va dans l'émission, Caroline, on voit qu'il y a vraiment tout un processus à faire qui est physique, en action, mais aussi psychologiquement. C'est ce que je comprends de tout l'accompagnement là, vers ce désencombrement.
Absolument.
Ouais. Donc, nous nous arrêtons pour une chanson et on poursuivra par la suite.
La vaisselle est propre, le linge plié, ma tristesse balayée. Je cligne des yeux, t'es encore là, je crois rêver. J'en ai cassé des assiettes, je me suis mis en miettes. Photos du passé, en 1000 morceaux. Sur le plancher, tu m'as recollé. Où est-ce que t'étais, tout ce temps-là? Quand c'était le bordel, en dedans de moi et que je ne voyais pas que l'arc-en-ciel brille pour moi. J'avais plus de maison ni de raison pour croire au feu de foyer. Tu m'as ouvert ta porte, invitation pour me réchauffer. Il ventait fort dehors, il faisait froid dans mon corps, sous mes vêtements troués. T'as choisi du fil de laine pour me rapiécer. Où est-ce que t'étais tout ce temps-là? C'était le bordel en dedans de moi et que je ne voyais pas que l'arc-en-ciel brillait pour moi. Où est-ce que t'étais tout ce temps-là? Quand c'était le bordel en dedans de moi et que je ne voyais pas que l'arc-en-ciel
d'écouter une autre chanson qui parle du grand ménage de l'Arche. Donc, nous sommes dans notre thème désencombrement avec Caroline Rochon, qui est organisatrice professionnelle. Et puis, j'aimerais ça vous rappeler qu'elle a écrit le livre « Moi et mon désordre » paru aux éditions Béliveau et qu'elle a la générosité de vouloir faire tirer. Alors, le tout sera sur la page Facebook de Canal M. Caroline, on était en train de discuter et puis je vous faisais part de ce que je réalise au cours de cette entrevue avec vous. C'est que finalement, il y a comme un processus qui se fait. Puis parfois, on parle de coaching, mais c'est un coaching qui nous permet émotionnellement d'être détachés, physiquement aussi, de prendre des actions. Donc, c'est important cet accompagnement-là pour que on soit pas perdu dans ce qu'on fait ou traumatisé aussi.
Oui, absolument. Moi, j'aime dire que tout se fait dans la douceur. Mm-hmm. Et une organisatrice professionnelle ne va jamais mettre quelque chose à la poubelle sans votre permission. Donc, moi, si je rencontre un Kleenex qui est sale,
oui,
je ne vais pas le jeter aux poubelles parce que pour certaines personnes, ils vont vouloir le garder. Alors, c'est à ce point-là. Alors, mm-hmm, notre rôle à nous, c'est de faciliter le processus. Puis je pense que souvent, les gens pensent que sont capables de le faire par eux-mêmes.
Oui.
Et comme je dis souvent, un peu comme l'électricité, mais si vous pensez que vous êtes capable de changer l'ampoule, parfait.
Mm-hmm.
Mais si c'est beaucoup plus compliqué, le processus...
Oh, ouais.
On fait appel à un électricien et il n'y a aucune honte d'appeler un professionnel pour s'occuper, mm-hmm, de la plomberie, s'occuper de son électricité. Et je pense que c'est ça, les gens, ils ont ce sentiment de culpabilité, de honte, que leur désordre arrive à un certain degré. Alors, souvent, ils vont repousser la décision jusqu'à temps qu'ils frappent un mur, souvent, ou que quelqu'un d'autre va vraiment leur dire quelque chose. Et nous, on arrive sans jugement, on en a vu de toutes les couleurs, comme on dit.
Oui.
Et puis, c'est ça notre rôle, c'est de vous aider là où vous n'avez peut-être pas appris comment faire et que s'il y a eu des traumatismes pour X raisons, des pertes de personnes, des divorces, changements de carrière, des problèmes de santé, nous, on est là pour ça. Mm-hmm. Puis c'est fait avec tact, diplomatie, avec beaucoup d'amour et de bienveillance envers notre client. Alors, c'est un processus qui, souvent, les gens font « Oh, pourquoi j'ai tant attendu? » Oui.
Ils éprouvent un soulagement.
Absolument.
C'est ça. Puis en lien avec ça... On parle toujours du printemps, il faut faire le ménage du printemps, oui. etc. Même ce ménage du printemps, ça pourrait être déjà un premier pas?
Absolument. Et puis, le ménage de printemps, ça vient en fait de l'ancien temps. Hein. C'est okay. une pratique qui vient même de la Bible. On en parle dans un des livres, Exodus, je pense, je ne me souviens pas. Mm-hmm. Mais c'était une pratique, le grand ménage... au niveau britannique, les gens faisaient réchauffer leur maison avec du charbon, du mazout. Mm-hmm. Et ce qui arrivait, c'est que là, une couche dessus se mettait sur les murs, sur les fenêtres et tout ça. Il y a aussi d'autres cultures qui, pour eux, le nouvel an coïncide avec le printemps. Donc, le printemps, c'est quelque chose qui est un peu inné en nous de vouloir... épurer, nettoyer, repartir à neuf. Hein? On a hâte que les tulipes sortent et tout. Alors, c'est un très bon moment pour commencer. Bon, moi, j'aime toujours de travailler avec les personnalités. Alors, oui. Il y a des gens qui c'est la théorie des petits pas, comme ma bonne amie, Carole. Et moi, c'est la théorie, on saute en parachute. Alors, vraiment, c'est de reconnaître qui on est dans notre personnalité et d'y aller selon ce qu'on est confortable avec, mais aussi... son taux d'énergie qu'on a présentement. Parce que là, avec la pandémie, ça nous a beaucoup affectés à plein de niveaux. Okay. Alors, soyez pas trop dur avec vous-même et dites-vous, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je dis souvent que sans action, on a de l'information et non de la transformation. Alors, si pour vous, c'est de vous voyez ça comme une grosse montagne, on a l'expression « comment on mange un éléphant », alors c'est une bouchée à la fois. Ouais. Alors, c'est de morceler son projet. Alors, si vous voulez faire votre chambre à coucher, bien peut-être c'est d'y aller un tiroir à la fois. Okay. Ou de faire un garde-robe. Si c'est encore là, c'est faire le garde-robe, c'est trop difficile. Mm-hmm. Mais faites le côté droit ou le côté gauche. Allez-y section par section pour commencer petit et avoir des petites victoires. C'est surtout pas de se décourager. C'est un processus qui demande un peu de temps pour y aller à fond. Mm-hmm.
J'ai envie de vous demander, est-ce que l'encombrement a un lieu? C'est-à-dire, est-ce que c'est seulement dans notre maison? Ça peut être dans notre bureau, ça peut être dans notre voiture. Quand on est encombré, on a tendance à accumuler. Oui. Ça peut être partout?
Ça peut être partout. Encore là, ça dépend de la personne et de son paraître. Parce qu'il y a des gens qui vont à la maison, loin des yeux du public ou des gens, vont se permettre d'être en désordre. Au bureau, ils vont faire un effort. Mm-hmm. Dans leur voiture, ils vont faire un effort. Et il y en a d'autres qui s'en foutent complètement. C'est bordélique partout. Alors vraiment, encore là, ça va dépendre des personnes. Mais c'est certain que si c'est une tendance... à l'être, ça va suivre les personnes un petit peu partout.
OK. Puis, est-ce que dans les pays où il n'y a pas de saison, il n'y a pas de... ou peut-être on cumule d'autres façons, est-ce que vous avez des exemples là-dessus?
Non, pas vraiment. Je connais plutôt ce qui se vit ici dans les Amériques, puis un peu aux États-Unis, en Angleterre et dans les pays plus industrialisés. Mm-hmm. Mais je pense que faut arrêter de regarder les autres et d'aller au profond de soi-même pour dire, de regarder autour de soi puis dire, est-ce que ça m'affecte?
Ouais.
Et si oui, à ce moment-là, c'est peu importe que ce soit le printemps, l'automne, l'hiver, allez-y. Demandez de l'aide ou faites-le par vous-même. Il y a plein de ressources. Il y a des livres.
Oui.
Il y a des audios. Il y a le podcast, je pense, de Isabelle. Mm-hmm. Il y a des ressources qui existent. Alors, faites juste commencer. Attendez pas le ménage du printemps comme tel. Allez-y selon vous. Puis en faire une affaire personnelle à soi.
Mm-hmm. C'est ça. Donc, quand on le ressent, ben on dit que c'est le temps de procéder.
Oui.
Dans ce sens, est-ce qu'on peut désencombrer quelqu'un d'autre? Je veux dire, le conjoint, les enfants.
Je reçois des appels Caroline, est-ce que tu vends des certificats cadeaux? Là? Je suis là, pour qui? Ils sont comme pour mon conjoint, pour mon enfant, pour une sœur, des choses comme ça.
Ouais.
Et là, ma question est toujours, est-ce que la personne est au courant?
Mm-hmm.
Je pense que, ça c'est mon opinion personnelle, quand on essaie de désencombrer quelqu'un, on le fait à leur place.
Oui.
Dans le terme en anglais, we disempower them. Mm-hmm. Alors, on leur enlève leur pouvoir, on les déresponsabilise et on ne leur permet pas de s'outiller.
Oui.
Donc, l'enfant, peut-être que lui est bien content, sa mère s'occupe de faire son ménage et de désencombrer pour lui.
Mm-hmm.
Peut-être que ça va bien, sauf que ça ne lui permet pas de développer des outils à long terme. Et d'un autre côté, ça peut avoir un effet inverse quand la mère ou le père se décide de jeter et de se débarrasser d'objets, ça peut venir traumatiser un enfant.
Ouais.
Et on vient brimer, là, à ce moment-là, leur estime de soi.
Mm-hmm.
Alors là, c'est là que des fois, il va avoir des tendances d'accumulation compulsive parce qu'il y a un traumatisme qui s'est créé quand ils sont plus jeunes.
Mm-hmm.
Alors pour moi, c'est toujours une question, faites-en une affaire de famille.
Ouais.
Assoyez tous les membres de la famille qui sont impliqués.
Mm-hmm.
Et d'en faire un projet. Et sinon, si à un moment donné, il faut apprendre à lâcher prise aussi.
Oui, non, je oui. comprends.
Qu'est-ce qui est plus important, les relations? J'aime aussi l'expression, est-ce que tu préfères avoir raison ou à être heureuse?
Okay.
Alors, à un moment donné, c'est des questions à jouer avec.
Caroline, j'aimerais vous demander, est-ce que parfois vous rentrez dans une famille puis là le couple se chicane un peu puis ils savent pas
absolument puis quand je fais l'auto-évaluation
oui
souvent c'est là que tout est compris
mm-hmm.
parce que un va être un style et l'autre va être l'autre
ah, ouais,
et souvent après ma consultation les gens vont dire t'as sauvé notre couple
OK
parce que là au lieu de se regarder avec jugement
mm-hmm.
ils se regardent avec de la compréhension et là ils peuvent trouver des outils puis des trucs qui vont faciliter chacune des styles de personnalité. Alors, je viens apprendre qu'il n'y a pas une façon qui est mieux que l'autre. C'est juste que parfois, notre cerveau gère les choses différemment. Alors, d'apporter cette compréhension-là va faire que ça va relâcher la tension qu'il y avait là. Et souvent, avec notre aide, c'est de trouver des compromis. C'est fascinant comment en 30 secondes, on peut résoudre un problème que ça fait 30 ans qu'il existe.
C'est vraiment impressionnant. Hein, on reste encore dans l'aspect du couple,
oui.
c'est-à-dire de savoir comment l'autre réagit. Puis je vous pose la question, vous rentrez dans une maison, il y a un garage encombré, une cuisine encombrée. Quelle est la pièce? Est-ce qu'il y a une pièce où on commence rapidement ou qu'on se laisse plus aller?
Bien, durant la consultation, je vais déterminer où est la personne? Parce mm-hmm. que si émotionnellement, elle est fragile,
oui.
on va commencer par des endroits qui vont moins challenger, vont moins mettre au défi ses émotions. Alors, ça va être un peu plus rationnel, les décisions qu'ils vont prendre.
Okay.
Tandis que quelqu'un qui est comme pleinement dans ses capacités, ben on peut commencer par les endroits plus difficiles.
Mm-hmm.
C'est certain que Marie Kondo, elle propose une façon de faire.
Mm-hmm.
Moi, je suis de nature extrêmement intuitive
oui.
et je suis là avec la personne devant moi, alors je m'adapte à la personne. S'il y a vraiment une problématique au niveau de la cuisine, parce que présentement, elle a des enfants, il faut qu'elle fasse ses devoirs, du télétravail, tout ça,
mm-hmm.
on va peut-être s'aborder à cette pièce-là en premier pour aller soulager le plus rapidement possible là où il y a des enjeux.
OK. Moi, je pense aussi aux collectionneurs. Est-ce que ça vous arrive, des gens qui collectionnent
oui.
des objets?
Alors, il y a une distinction entre collectionneur et hoarder, là, les
oui.
accumulateurs compulsifs. Alors, les accumulateurs compulsifs, c'est qu'ils sentent une grande détresse juste à penser à se départir de quelque chose.
Oui.
Un collectionneur, pour moi, c'est tant que ça nuit pas à ses relations, tant que ça nuit pas à sa façon de procéder dans son quotidien,
oui.
ils peuvent collectionner tant qu'ils veulent.
Okay.
C'est vraiment... tant et aussi longtemps qu'on met en valeur ce qu'on collectionne.
Mm-hmm.
Pour moi, si tu collectionnes, mais tout est dans le fond du placard et ça accumule la poussière, on n'honore pas les objets. Donc, pour moi, là, à un moment donné, c'est là, il faut faire un choix
mm-hmm.
Dans la quantité raisonnable pour cette personne-là d'accumuler des choses.
Mm-hmm. Rapidement, Caroline, quel est le conseil que vous donneriez?
Viser la progression et non la perfection.
Ah! Oh. super parfait. Wow. Donc, Caroline Rochant, que je vous rappelle, est organisatrice professionnelle qui a écrit le livre « Moi et mon désordre » paru aux éditions Béliveau. Donc, ceci met fin à notre émission. Caroline Rochant, merci. Vous nous avez vraiment éclairé, moi-même aussi. Et j'ai des petits clins d'œil pour ma propre organisation. Donc, merci à toute l'équipe. Maurice Bolduc à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef de la diffusion technique. Ici Marjorie Théodore qui vous dit à bientôt.
Pour reconnecter Simon et Pierre-Luc à...
Deux relish moutarde puis le liqueur.
Et surtout, à ça.
Yeah! Voyons, j'ai plus de voix.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.